Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et comme tous les vendredis, on parle livre avec Gérard Collard. Bonjour,
bonjour
Gérard, vous êtes libraire à Saint-Maur, votre librairie c'est La Griffe Noire.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on lit cette semaine?
Surtout pas le dernier Quignard, parce que alors là, je me suis vraiment au bord du suicide.
Ah
mais
bon
alors franchement, c'est pas possible. Enfin, c'est... Enfin, bon, on va passer, parce qu'il y a un truc, il me doit manquer des neurones, il me doit manquer quelque chose, parce que tout le monde est là en train de se pâmer devant cette chose, et je ne comprends pas.
Pascal Quignard, donc,
ouais, bah,
ça
bon,
ne
voilà,
vous a pas plu.
Non.
Alors, qu'est-ce que vous avez lu?
Alors, vient de paraître en poche un livre que j'avais adoré quand c'était en grand format chez Perrin, qui s'appelle de Virginie Giraud, L'histoire des 12 Césars. Alors, c'est comme une série de Netflix. Alors, c'est tiré de Suétone, vous savez, il avait fait, c'est un classique, les 12 Césars et tout, et vous avez toutes sortes d'empereurs, c'est génial. Alors, vous avez les faux culs, genre Auguste. Alors, Auguste, vous savez, c'est le fils adoptif de César qui va faire la guerre à celui qui va tomber amoureux de Cléopâtre, Marc-Antoine. Nul. Et là, en fait, c'est un focus, c'est-à-dire qu'il fait le genre, on va retourner aux vraies valeurs, la famille et tout, et je ne vous dis pas le type que c'était. Et puis, vous avez le genre Stephen King. Alors, il y a...
Stephen King, César.
Oui, oui, genre, il y a Néron, il y a Caligula, il y a Tibère, vous lisez, c'est Stephen King, la vie de Tibère, c'est incroyable, parce qu'on parle de Caligula, mais Tibère, c'est pas mal, hein, dans le genre pervers, obsédé sexuel, enfin... Et alors, à travers ces 12 Césars, vous avez une histoire de l'Antiquité, mais c'est... Je trouve ça génial, parce qu'elle a transformé ce qui pouvait être ennuyeux
en quelque chose... Oui, c'est ça ce que j'allais vous dire, parce que c'est ce qu'a écrit Suétone, donc elle l'a modernisé.
Oui, elle l'a réadapté, genre série Netflix, avec beaucoup, beaucoup de talent, ce qui fait que je n'avais pas lu les 12 vies de César de Suétone, donc j'y suis retourné, et là, j'ai pris du plaisir en relisant les 12 Césars la vie des 12 Césars de Suétone. Allez-y, c'est pas cher, ça vient de paraître en pocket. En pocket, c'est...
Ça s'appelle La véritable histoire des 12 Césars. Et elle s'appelle Virginie Giraud.
Vous le faites lire à vos enfants, qui, quand vous leur parlez de l'Antiquité, mais vous leur présentez Stephen King, les faux culs et tout, et vous verrez, ils vont complètement, ça marche vraiment très...
Bien vendre le truc.
Oui, et puis de les introduire dans l'histoire de l'Antiquité, leur montrer que l'histoire, c'est pas forcément chiant, et que ça peut être comme des livres d'aventure, et qu'ils peuvent se faire leur...
C'est des personnages.
C'est des vrais gens, ils ont été avec... Il y a tout.
Il y a des femmes aussi, hein.
Ah bah oui, il y a des femmes, il y en a pas mal. Agrippine la jeune, Agrippine la vieille, je vous dis pas, ça empoisonnait dur. Hein.
Ouais.
C'est, bon, il y en a certaines écrivaines nous empoisonnent par leur style, mais eux, c'était pas...
Donc c'est un chapitre par...
C'est franchement très très bien.
Alors moi, je voulais vous parler d'un livre.
Alors,
parfois on reçoit des livres, des gens vous envoient des livres, j'ai écrit, Parfois, donc mollement, on ouvre la couverture en disant, bon, je vais faire un petit effort et puis on laisse tomber. Et puis là, c'est la surprise, c'est un petit bijoux, vraiment, je le dis, ça s'appelle « Quand cessent les combats ». C'est
je vous
un
dis
livre
qu'elle
de
me
nouvelles.
Casse les pieds depuis deux semaines en me disant « Il faut absolument le lire parce que franchement, c'est... Voilà. »
Alors, c'est un auditeur de Sud Radio. C'est quelqu'un qu'on aime bien, que je ne connais pas. Il s'appelle Pierre Bisbal. Ça s'appelle « Quand cessent les combats ». C'est aux éditions de l'Harmattan. Alors moi, vous savez, à chaque fois, à chaque rentrée, je dis « Je n'en peux plus de la guerre. Je déteste les récits de guerre, etc. » Sauf que là, c'est très original. Ce sont 12 nouvelles et 12 histoires de soldats après la guerre. Et alors, il a un talent fou. Moi, ça m'a fait penser à Maupassant. Vraiment, je vais jusque-là. Il a une écriture incroyable. C'est la trajectoire de tous ces soldats. Après, alors, il y a une partie, c'est après la guerre de 18 et l'autre, après la victoire de 45. Et donc, il nous emmène... il nous fait découvrir des personnages qui ont des histoires singulières. C'est assez léger, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que par exemple, il y en a un qui revient, qui a la gueule cassée, qui est enfermé chez lui. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, ses copains mettent des panneaux en disant « on a besoin de toi parce qu'on est nul à la pétanque et t'étais notre meilleur tireur ». Et puis il assume de sortir. Il y en a un qui devait se marier avec une très, très belle, avec une fille d'une bonne famille, avec une dot formidable. Et puis il se trouve qu'il y a une autre jeune femme, pauvre, qui lui a envoyé des lettres. Et il a décidé de choisir celle-là. Donc c'est des histoires humaines, c'est formidable. Franchement, moi j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. Vous êtes entraîné par chacun de ces soldats. Alors moi qui n'aime pas les les histoires de guerre. Et ça ne parle pas de la guerre. Enfin, si, ça en parle,
ouais,
parce que
conséquences,
tous ces soldats ont été transformés par la guerre. Il y en a un qui est tenancier de bordel. Lisez-le, ça
c'est
s'appelle.
C'est pas glauque en plus. Ah, c'est pas,
c'est très léger, c'est très drôle. Il a un humour de dingue, mais vraiment un humour de dingue. Une plume. Je vais envoyer un petit mot pour lui dire. C'est mille fois meilleur que beaucoup de livres que j'ai lus de la rentrée. Ça s'appelle Quand cessent les combats. C'est chez L'Harmattan et l'auteur s'appelle Pierre Bisbal.
Alors on continue dans les livres de poche, hein, parce que bon, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait vraiment. Là, ils viennent de paraître, je vous laisse. On en avait déjà parlé, mais quand c'était paru en grand format,
Elisabeth,
il y a très longtemps.
Louise Vigée-Lebrun, absolument.
Et alors, c'est une femme formidable, parce que c'est en fait, c'est l'histoire d'une époque. Alors, Vigée-Lebrun, c'est une portraitiste, hein, c'est une femme. À l'époque, hein, les femmes peintres, ça n'existait pas trop, c'était surtout les hommes. Elle va complètement révolutionner la notion de portrait. Elle va faire les portraits, elle va être le pour ainsi dire, la portraitiste officielle de la cour, c'est sous Louis XVI. Hein, elle va être la. Il y a des tableaux absolument célèbres de Marie-Antoinette par elle. Elle est complètement dans l'intimité de la reine. Alors, elle vous raconte cette cour, bon, en fin de course hein, quand même, mais bon, vous avez quand même la vie quotidienne à la cour. Va arriver la. Va arriver la révolution, elle fuit. Et alors là, elle va faire. Mais c'est un énorme voyage, vous allez suivre, c'est son périple
Turin,
en
Bologne,
Italie.
Florence, oui, c'est Rome, ça. Naples, alors, Grèce, et elle finit à Vienne.
Alors, finir à Vienne et à Saint-Pétersbourg, elle va être immensément célèbre. Et puis, alors, vous découvrez cette époque, alors, dans les pays étrangers, enfin, voilà. Et puis, elle va revenir sous Napoléon, enfin, sous Bonaparte. Elle va finir sa vie là, elle est célèbre. Il y a sa fille aussi. Enfin, j'aime bien parce que c'est vraiment une histoire de femme en même temps. C'est-à-dire comment on voit les femmes à cette époque qui étaient brillantes, intelligentes. Elle est vraiment intelligente, c'est sensible. Ça se lit, mais alors, très, très bien. Ne vous dites pas, c'est le 18e, voilà, c'est un peu empoulé ou c'est un peu d'une autre époque, et ça donne envie. Alors moi, du coup, j'ai
alors, ce sont ses souvenirs. Hein,
c'est ses mémoires. Hein, c'est vraiment écrit par elle. Et alors, ça vous donne envie d'aller revoir ses peintures. Et vous dites, mais oui, je connais, c'est superbe. Les aquarelles et les peintures qu'elle fait à l'étranger, sont en Italie, c'est vraiment merveilleux, ça vous fait voyager. Allez, alors, pour pas cher, vous avez de la culture, l'histoire et de l'aventure.
Voilà. Ça s'appelle Souvenirs, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, Le temps retrouvé. Allez-y, effectivement.
C'est au Mercure de France, c'est une jolie collection, il y a plein de choses. Hein. Alors, là, toujours.
Oui, ça, c'était bien. Les simples, Yannick Granek, ça fait un petit moment que c'était sorti.
Oui, mais pas en poche. Pas ça en vient poche. De paraître en poche. Les gens ne l'avaient pas lu forcément parce que c'était cher, hein, donc il ne faut pas se leurrer.
Là, et on est en 1584.
Oui, alors on est en Provence, hein, on est dans un couvent de bénédictines. Hein. Ce ne sont que des femmes et elles sont hyper bien, elles sont heureuses entre elles sont riches, parce qu'en fait, elles font les simples, c'est des plantes médicinales et elles les cultivent, elles font des choses absolument extraordinaires avec. Elles soignent la cour, le roi et tout. Ouais. Donc elles sont très bien, mais elles ont surtout du fric. Mais c'est un homme. Alors forcément, les hommes, c'est toujours jaloux, c'est rapière, enfin c'est souvent. Hein. Et c'est un évêque, il est un évêque de Vence. Et il dit, bon, je vais essayer de récupérer tout ça, la manne. Et alors il envoie deux types. Alors je ne vous dis pas les deux types. Il lui dit, il faut trouver quelque chose pour les déloger, puis que je récupère l'argent. Mais qui croyait prendre des prix là dans le... Vous allez voir comment le diable, il n'est pas forcément du côté qu'on le croyait. C'est hyper bien écrit.
Ouais, c'était super.
C'est l'époque, c'est l'histoire d'une époque. C'est les femmes, comment ces femmes intelligemment vont dominer la situation. Et puis, le Granek, elle écrit
très bien.
Merveilleusement bien.
Hein. Donc, ça s'appelle Les Simples. Yannick Granek, GRA2NEC. Allez-y si vous ne l'avez pas lu.
C'est une
parce que
merveille.
C'était vraiment très, très bien.
Alors, un petit livre dont on ne parle pas, c'est ce que je dis, c'est pas Pascal
Ce qu'il
Pignard.
Faut de nuit. Ah oui, Laurent Petit-Mangin. Si, on en a parlé. J'ai lu beaucoup de choses.
Moi, je n'ai pas vu. Hein, donc,
si, si.
Et alors,
c'est un premier roman.
Oui, alors c'est quelque chose dont on traite peu. C'est les relations entre père et fils. Souvent, c'est les mères. Souvent qui sont le thème central du livre. Alors, elles parlent de leur fille, elles parlent de leur fils. Et là, pas du tout. Et alors, c'est un peu l'équivalent du Goncourt de l'année dernière, qui était un peu chiant. Moi, j'avais trouvé ça un peu lourdeau, un peu noir, blanc-noir, enfin. Et là, on est en Lorraine. Hein. C'est l'histoire d'un père. Alors, ça commence très mal parce que la mère meurt. Alors, ils sont tous désorientés. Le père, il est plein de bonne volonté. Il a deux fils. Et alors, vous allez voir comment, entre les hommes, les femmes, elles se parlent beaucoup. Elles n'ont pas de honte. Elles mettent des mots sur leur problème, c'est les hommes, pas du tout. Hein. C'est plein de pudeur, c'est plein de non-dits.
Et donc, c'est ça qu'il arrive à faire transparaître.
C'est absolument merveilleux. Les silences sont incroyables. Il a un style absolument d'une délicatesse, une analyse psychologique. Alors, il a deux fils. Il en a un qui est plutôt brillant. Il va à Paris, il va monter à HEC. Vous allez voir la solidarité de cette famille pour payer, parce qu'ils sont pauvres. Hein. Ils sont en Lorraine, c'est la crise. Et puis, il en a un autre qui est moi, qui est très touchant. Mais lui, alors, il va pas du tout comme l'autre fils, il fait que des bêtises, hein, c'est le moment de le dire. Et puis, le père, il est plutôt comme en Lorraine, c'est-à-dire syndicaliste, de gauche, vous voyez.
Ouvrier.
Voilà, il est ouvrier, c'est toute une culture. Hein. Et ce fils, il va tomber dans l'extrême droite. Et c'est le dilemme de ce père, c'est-à-dire que comment on peut aimer, continuer à aimer son fils, tout en il est choqué par ça. Il va en plus arriver quelque chose de dramatique. Et vous allez voir comment ce père, et ben malgré tout, il va continuer à aimer ce fils. Et c'est très joli, c'est très beau. Puis je trouve que c'est une des rares fois où je vois...
C'est traité de cette manière, effectivement,
oui,
sur l'opposition politique.
En tant que... Comme on se retrouve là-dedans quelque part, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on voudrait dire et qu'on ne dit pas, parce que ça, je sais pas, c'est une culture voilà, du mal, on ne parle pas, on a peur d'être ridicule et tout. Et c'est sublimement écrit, c'est tout en finesse. Ne passez pas à côté de ces tout petits, mais c'est vraiment d'une force, d'une intensité, le style est absolument... se plaque exactement au sentiment. Et puis, comme je dis, c'est en fait la puissance de Sif, c'est dans les silences. Mmh. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les silences. C'est une merveille. Hein. Ouais. Franchement, c'est passé. Ouais. C'est comme vous avec votre livre sur la guerre. Voilà. Moi, je me bats pour ce petit livre parce que je trouve
Alors, l'auteur s'appelle Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit. Et c'est aux éditions.
Manufacture du livre.
C'est aux éditions Manufacture du livre. Un petit dernier.
Alors, un livre extraordinaire, Le polar du siècle.
Enfin, ah bon, encore
là, mais là, on a besoin de vous parce que.
Olivier Bocquet, du plomb dans la tête, aveugle depuis son agression, il ne pense qu'à la vengeance.
Voilà, on a besoin de vous parce que ce livre, il est paru pendant le Covid. Donc, il n'existe pas. Hein. Si vous n'allez pas le rechercher, il est mort. Et Bocquet, c'est un dessinateur. Il fait des BD.
Alors, il a été pompiste, traducteur de mode d'emploi, sexeur de poussins.
Sexeur de poussins,
j'adore. Gérant de restaurant, etc.
Il n'a pas fait HEC ni des écoles de. Et alors là, il nous redonne un nouveau souffle au polar français. C'est l'histoire. Ça commence. Mais alors, les scènes sont absolument incroyables. La première scène, c'est un type qui est kidnappé. Il est attaché sur une table et l'assassin va lui mettre du plomb dans les yeux. Vous imaginez ? Et c'est décrit, mais alors, voilà. En plus, il y a un couple d'enquêteurs improbables, mais je crois qu'on va le refaire la semaine prochaine, parce que là, on est à la fin de l'émission, mais ça vaut vraiment une émission entière, parce que c'est vraiment...
Entière,
moi, ça a été un choc, et les clients, enfin, les gens qui l'ont lu, ont découvert... Ah oui, c'est vraiment...
Ça s'appelle Du plomb dans la tête, et l'auteur s'appelle Olivier Bocquet, B-O-C-Q-U-E-T, c'est paru chez Michel Lafon.
Voilà.
Il y a deux petits livres de Soledad Bravi qui sont parus. J'adore Soledad Bravi qui fait des illustratrices.
Ouais.
C'est toujours très drôle, beaucoup d'humour. Il y a le raton laveur qui ne voulait pas se laver.
J'adore.
Donc la maman qui, au bout d'un moment, dit tu veux pas te laver, t'as qu'à rester sale. Puis le petit sous-titre sur le raton laveur, c'est à quoi ça sert effectivement de se laver, mais il se rend compte quand on se lave pas, c'est pas sans conséquence. À l'école des loisirs, c'est très mignon. Allez-y parce que c'est un petit livre pour enfants très mignon. Et Gabi, tu me fais rigoler, collection Mouche, c'est pour les 6-8 ans. Et c'est en gros les petites joies et les grandes joies d'une petite fille. J'adore son dessin, je trouve qu'elle a un humour de dingue. C'est très très bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
On se revoit la semaine prochaine.
Certainement.